68. 68.
Thank you.
Notre Dieu, notre Père, oui, tu prends soin de nous. Seigneur, tu as tout fait pour nous et combien nous pouvons avoir cette conviction, notre Dieu, que tu prépares toutes choses devant nous. Peut-être pas forcément comme nous l'avons prévu ou comme nous le voudrions, mais tout est dans ta main, notre Dieu. Et encore dans ces moments cet après-midi, nous voulons te demander encore de les bénir. Tu nous invites à ouvrir ta parole pour préparer nos cœurs, notre Dieu, les rafraîchir, pour que nous soyons convaincus encore que tu es dans toutes choses et que tu prépares tout. Tout est dans ta main, notre Dieu, mais aussi pour fortifier nos pieds, pour arpenter ce chemin bien caillouteux. Et notre Dieu, que tu nous prépares, notre Dieu, de pouvoir recevoir ta parole encore cet après-midi, qu'elle puisse prendre place, qu'elle puisse aussi nous rendre plus aptes à avancer dans le chemin que tu veux devant nous. Te prions aussi pour ceux qui, les frères qui présenteront la parole aussi, qui puissent être ce vaisseau pour communiquer encore ce message que tu veux pour nous. Te remettons encore cette prière dans le doux et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Jésus, de ton amour, viens remplir nos âmes. Pense au verset que nous avons lu ce matin dans le premier épître de Jean, mais je voudrais d'abord relire quelques autres passages. D'abord dans l'évangile de Jean, au chapitre 13. Au verset 23, « Or l'un d'entre ses disciples, que Jésus aimait était à table dans le sein de Jésus. Simon-Pierre donc lui fait signe de demander lequel était celui dont il parlait, et lui, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, lequel est-ce ?» Cette expression, l'un d'entre ses disciples que Jésus aimait. Puis dans la première épître de Jean, chapitre 1er, verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée et nous avons vu et nous déclarons et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses, afin que votre joie soit accomplie. Et c'est ici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, savoir que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. On continuera après. Celui qui a écrit ce que nous venons de lire, nous savons, c'est celui qui s'appelle dans l'évangile de Jean le disciple que Jésus aimait. Bien des passages nous montrent et toute la manière dont le Seigneur se fait connaître à nous montre qu'il aimait tous ses disciples. Même à Judas, quand il vient au jardin de Gethsémané, qu'est-ce que le Seigneur lui dit ? « Ami, pourquoi es-tu venu ?» Si Judas s'était opposé à Dieu, le Seigneur n'était pas opposé à Judas. Mais Jean, pourquoi nous ne savons pas ? Pourquoi ? Jean était particulièrement sensible, c'est peut-être pas le mot, je sais pas comment il faudrait le dire, mais pourquoi il extériorise d'une telle manière, il se présente lui-même comme le disciple que Jésus aimait. Une conscience, un ressenti très fort de l'amour dont il était aimé. Et ce début de cette épître nous place directement dans ce que Jean a connu, ce que Jean a vécu de ces années, ces quelques années passées, en suivant le Seigneur Jésus, en le côtoyant tous les jours, en le côtoyant de près. Nous l'avons vu dans les expressions au moment de ce repas de la Pâque, où il était près du Seigneur, à côté de lui, contre lui, le touchant. Voilà ce que nos mains ont touché, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, que nous avons contemplé, que nos mains ont touché. Les sens qui sont évoqués là, mais les sens qui sont pas dans le côté des sens naturels qui sont, si je dis d'une certaine manière, tout n'est pas dit avec ça, il faudrait nuancer, mais qui excitent la chair. Non, c'est pas les sens dans ce sens-là. C'est les sens qui animent l'âme. Les sens qui sont le moyen de nourrir, de communiquer de l'âme avec ce qui l'entoure. Ce que nous avons entendu. La parole parle beaucoup des sens pour nous parler de les oreilles, ce que nous entendons, les yeux, ce que nous voyons, les mains, ce que nous touchons, tout ce qui entre, qui sort, la bouche. Il n'est pas parlé de bouche. Parce que là, Jean est dans le côté de recevoir. Il n'est pas dans le côté de donner, de dire. Quand il est dans le côté de dire, c'est le verset 5, où déjà avant, nous écrivons ces choses. Nous vous annonçons, verset 3, c'est la parole du prophète. Il parle pour un autre. Il ne parle pas de lui, de lui-même. Alors que là, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a contemplé, ce qu'il a touché, cette proximité qu'il a eue, elle est en lui et elle ne peut pas, elle anime son âme. Concernant la parole de la vie, et alors verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Partagez ce qu'il a reçu, ce qu'il a entendu, connu auprès du Seigneur, il ne peut pas le garder pour lui-même. Il ne peut pas le garder pour lui-même, ni en tant que lui, individu, ni en tant que lui, disciple, apôtre, instrument dans la main de Dieu. Il faut qu'il le partage. Nous vous l'annonçons afin que vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ce qui nous lie les uns aux autres a comme origine ce qui nous lie à Dieu lui-même. C'est frappant qu'au fond, si on considère la communion présentée comme Jean la présente, la première étape pratique, c'est notre relation individuelle avec le Seigneur, avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et c'est par voie de conséquence, parce que chacun, nous avons cette relation personnelle, qu'il s'établit une relation entre nous. Mais Jean nous la présente dans le sens inverse. Il nous la présente dans le sens où nous la vivons pratiquement. Bien sûr, le point de départ, c'est cette première relation que nous avons eue avec Dieu au moment de notre conversion. C'est le point de départ. Mais Jean ne parle pas tellement de la conversion, il parle plutôt de notre état de chrétien en marche, de ce que nous sommes maintenant, et pas de ce que nous étions et du changement qu'il y a eu. Il parle de ce que nous sommes maintenant. Et alors dans ce que nous sommes maintenant, il y a ce lien qui nous unit les uns aux autres, mais ce lien a sa source dans cet autre lien que nous avons individuellement, chacun, avec Dieu. Et alors, le verset 4 conclut cette introduction avec quelque chose qui est très encourageant. Pourquoi il nous parle de cela? Nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit accomplie. La contemplation de toutes sortes de manières dont lui-même a pu, que lui-même a pu avoir du Seigneur, ce qu'il a entendu, ce qu'il a reçu, ce que maintenant il transmet plus loin. Le but pratique, l'effet pratique, c'est cette joie accomplie. Une joie accomplie, c'est-à-dire une joie complète. Une joie qui ne laisse pas un petit quelque chose d'insatisfait. C'est des choses que nous pouvons connaître dans les choses de la terre. On a une occasion qui nous réjouit et puis il y a une petite fausse note qui laisse un petit mais. C'était bien, mais. On s'est réjoui, mais. Mais là, non, il n'y a pas de mais. C'est une joie complète, une joie accomplie. Et alors l'épître commence, au fond, le vrai commencement, c'est ici le message. C'est au fond quelque chose de très solennel. On est au fond, on entend souvent parler de Jean comme, et des écrits de Jean comme l'apôtre de l'amour. Effectivement, il parle de l'amour. Mais il commence pas par parler d'amour. Son message, c'est ici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. C'est d'abord Dieu et lumière. Et il n'y a en lui aucune ténèbre. C'est le point de départ. Dieu et lumière. Si j'anticipe sur la suite, et puis c'est un sujet qu'on peut pas épuiser, on ne dirait pas grand-chose par rapport à ce qu'on peut en dire. On ne peut parler d'amour que dans la pleine lumière de Dieu. Il faut qu'il y ait d'abord cette pleine lumière établie, qui met à nu toute chose, et qui, mettant à nu toute chose, permet que toute chose soit réglée pour qu'après, l'amour puisse être manifesté, pleinement manifesté. Dieu est lumière, il n'y a en lui aucune ténèbre. Et alors, si on lit, je vais pas m'y arrêter plus que ça, ils parlent par eux-mêmes, si on lit les versets qui suivent, on a en quelque sorte les bornes qui fixent ce domaine où on est en pleine lumière et où on peut alors avancer plus loin. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Il y a cette série de versets, si, alors, si nous disons que, alors cela. Et ça va à chaque fois dans les deux sens. Si nous disons quelque chose qui est en contradiction avec la nature de Dieu, alors il y a une conséquence. Le premier verset 6, si nous disons, alors que nous marchons dans les ténèbres, alors nous mentons. Si nous disons ceci qui est en contradiction avec Dieu, nous mentons. Mais inversement, si nous marchons dans la lumière, alors la conséquence, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est des choses simples. Il y a comme une espèce de logique, si on peut dire, mais c'est une logique qui n'est pas la logique humaine, mathématique. Comme je disais avant, ce sont un peu des bornes qui bornent ce terrain, qui mettent des marques, les limites de ce terrain où on est dans la lumière de Dieu. Et sur ces deux versets, je voudrais juste relever la petite note du verset 7. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Ou, la note nous dit, de chaque péché. C'est à la fois solennel et en même temps tellement encourageant. Chaque péché, ça veut dire que la lumière de Dieu met à nu chaque péché. Mais en même temps, ça veut dire que le sang de Seigneur Jésus nous purifie de chaque péché. Il y a deux absolus qui sont mis face à face. L'absolu de la lumière et l'absolu de l'œuvre de la croix, de l'expiation du Seigneur à notre place, qui nous purifie de chaque péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. On a là trois versets qui s'enchaînent, qui se complètent l'un d'autre, où il faut appeler péché devant Dieu ce que Dieu appelle péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, si nous croyons bon, si nous croyons juste, si nous nous prétendons bon, juste, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous, donc nous n'avons pas de place dans cette pleine lumière de Dieu. Mais en revanche, si nous confessons nos péchés, alors là on a de nouveau ce côté de la lumière qui met à nu et qui règle toutes choses. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Ça vient un peu en nuance du verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché ou si nous disons que nous n'avons pas péché. Attention, si nous disons que nous n'avons pas de péché, et qu'après on confesse et que on profite, on dit mes péchés, il est fidèle et juste pour pardonner. Et puis après on dit mais moi je ne pêche pas. Oui, j'avais une nature pécheresse, ça s'est réglé maintenant. Mais je ne pêche pas. Non. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. C'est toute cette série de versets, 6 à 10 là, sont là comme un petit peu pour régler cette question. Comment peut-on entrer dans la lumière de Dieu? Et une fois ça réglé, on a encore le verset 1 et 2 du chapitre 2, qui vont un peu plus loin et qui nous ouvrent au fond la porte pour la suite. Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. C'est plus le regard en arrière, c'est le regard en avant. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Lui est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Il y a maintenant, je vous écris ces choses pour que maintenant, dans la suite du chemin, vous marchiez dans cette lumière. Et c'est comme si ces gens sous-entendaient, je sais que c'est pas simple. Je sais que c'est pas gagné, par nous n'avons pas les capacités, nous n'avons pas les forces. Mais voilà, si quelqu'un a péché, il y a une solution. Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Lui est la propitiation pour nos péchés. Et puis, il y a le « nous », mais il y a aussi le monde autour, tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et la propitiation, le Seigneur Jésus, comme propitiation, est là pour tout homme. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Alors si nous allons un peu plus loin, je voudrais aller chapitre 3, chapitre 2, verset 29, dernier verset du chapitre 2. Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables et nous le verrons comme il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous ne sommes plus simples créatures, nous ne sommes plus des esclaves rachetés, nous ne sommes plus des serviteurs. Nous ne sommes pas des serviteurs, parce que nous n'avons jamais été au fond serviteurs avant, c'est une autre facette, c'est pas le sujet ici, de devenir esclave du Seigneur Jésus, si on peut le dire comme ça. Non, toutes ces positions que nous avions, ou que nous pourrions imaginer avoir devant Dieu, qui est lumière, qui est le Tout-Puissant, elles sont réelles. Mais elles sont mises de côté par rapport à quelque chose de plus précieux. Nous sommes enfants de Dieu. De quel amour le Père nous a fait don que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il nous appelle ses enfants. Il se présente à nous comme ce Père à qui nous pouvons dire Père, Abba, Père. Et il nous appelle ses enfants. Et c'est à la fois une nouvelle position et c'est à la fois une nouvelle relation. Ce nom de père et ce nom d'enfant, c'est surtout cela que ça définit. Nous avons une autre relation avec Dieu que nous avions avant parce que nous sommes placés dans une autre position. Dieu se présente à nous maintenant comme ce père qui s'occupe de ses enfants. Il nous voit comme ses enfants. Et du coup, notre relation n'est plus la même qu'avant. Même si nous sommes toujours créatures, nous sommes maintenant enfants. Avec une proximité que ne peut pas avoir la créature. Alors, voyez de quel amour le Père nous a fait don. Le comment nous sommes devenus enfants n'est pas du tout présenté ici. C'est le fait, c'est simplement le fait qui nous est présenté là. Et ce simple fait nous parle d'une facette, si je peux dire, de l'amour de Dieu. Cette nouvelle relation, cette nouvelle position devant lui. Ça marque une rupture. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Le monde ne connaît pas Dieu comme Père. Le monde voit Dieu comme quelqu'un de lointain, qui ne s'intéresse pas à nous, ou bien comme quelqu'un de très puissant, mais qui ne s'intéresse pas à nous, ou alors quelqu'un qu'il faut craindre, un juge. Mais le monde ne connaît pas et ne peut pas connaître Dieu comme un père. Et du coup, ceux qui sont enfants de Dieu, ben, ils sont étrangers pour lui. Ce sont des drôles de gens qui connaissent autrement celui que eux-mêmes ne connaissent pas. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Maintenant, c'est une assurance, c'est un fait. Nous sommes enfants de Dieu. Et ce qui est curieux, c'est que sans vraiment que ce soit un sujet de cette épître et qu'il soit développé, il y a le après là qui est mis en perspective. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est comme si Jean nous disait, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce n'est qu'une étape. Mais moi, je vous parle maintenant de ce que nous sommes. Mais ce n'est qu'une étape. Après, il va y avoir autre chose, mais cela ne nous a pas encore été manifesté, je ne peux donc pas vous en parler. Et effectivement, il y a ce temps maintenant de la terre. Après, quand le Seigneur viendra chercher les siens, nous ne savons pas vraiment, nous ne savons pas grand-chose. La parole utilise des images de nous parler de ce temps-là, de cette éternité qui est devant nous. Nous savons une chose, la présence du Seigneur. Nous serons avec lui, être avec Christ. C'est ça que nous savons. Mais le comment, sous quelle forme pratique, matérielle, immatérielle, sous quelle position, je parlais de position d'enfant, sous quelle position, bien sûr, comme c'est racheté. Bien sûr, il y a l'image de l'épouse, mais qui est plutôt le côté collectif. Mais c'est encore des images. Nous ne savons pas. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Il faut qu'on s'en contente. Mais en même temps, quand nous voyons ce que nous avons maintenant, et quand nous voyons ce que nous savons, nous serons avec lui, nous le verrons comme il est. On n'a pas besoin d'en savoir beaucoup plus. C'est déjà tellement précieux. Alors, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et cela, c'est une de ces choses que nul ne peut nous ravir. Nul ne les ravira de sa main. On ne peut pas ôter à un enfant de Dieu cette place d'enfant de Dieu. La relation avec le Père peut être plus ou moins libre. S'il y a des choses, des nuages, ben il y a des choses à régler, mais la position d'enfant ne change pas. Personne ne peut la prendre. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Et ça, cela a une conséquence sur cette marche. On revient, on parle de l'amour de Dieu. Voyez de quel amour le Père nous a fait don. On est émerveillé devant cette expression de l'amour de Dieu. Et la conséquence, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Cela a une conséquence sur notre marche, sur la vigilance quant à notre état de cœur, quant à notre relation avec lui, quant à tout ce qui fait notre vie sur la terre. Alors, un peu plus loin, verset 16, « Par ceci, nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous, et nous, nous devons laisser nos vies pour les frères. Mais celui qui a les biens de ce monde et qui voit son frère dans le besoin, qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Enfants, n'aimons pas de paroles ni de langue, mais en action et en vérité. Par ceci, nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous. » C'est un verset qu'on peut mettre un peu en regard. C'est pas exactement le même registre, le même contenu. Avec Jean 3,16, on a 1 Jean 3,16 et Jean 3,16. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Jean 3,16, par ceci nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous. 1 Jean 3,16, c'est l'annonce, l'énoncé de la pensée de Dieu, de l'intention de Dieu pour tout homme. 1 Jean 3,16, c'est ce que peut en exprimer celui qui est racheté. Celui qui a traversé, qui a connu Jean 3,16, qui a réalisé que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour qu'il ne périsse pas et qui a reçu ce salut par lui et qui a goûté cet amour, ben il peut dire « J'ai connu l'amour parce que lui a laissé sa vie pour moi. » Nous, nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous. Et là, de nouveau, ça a une conséquence pratique. J'avoue qu'en le lisant, là, à l'instant, la suite, je me sentais un petit peu à l'étroit pour le lire. Nous, nous devons laisser nos vies pour les frères. Celui qui a le bien de ce monde, qui voit son frère dans le besoin, qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est des paroles qui nous sondent. On les lit, il faut les entendre, chacun pour lui-même. N'aimons pas de paroles ni de langue, mais en action et en vérité. Pareil, c'est vite lu, mais ça nous sonde. Mais voilà, par ceci nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous. Nous avons là la mesure, une autre facette de l'amour, la mesure de l'amour. Alors, si on tourne la page, on va au chapitre suivant, ce que nous avons lu ce matin. Verset 7, chapitre 4, verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous. » C'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous aima ainsi, nous aussi nous devons nous aimer l'un l'autre. Un peu plus loin. Verset 16, « Nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu avec lui. En ceci est consommé l'amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement, c'est que comme il est lui, nous sommes nous aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte porte avec elle du tourment. Celui qui craint n'est pas consommé dans l'amour. Nous, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. » Ce sont des versets qui nous parlent, qu'on peut lire et qu'il nous faut lire et relire, nous arrêter dessus. Ils se complètent l'un l'autre, c'est comme si j'ai sauté des bouts, au fond il faudrait lire tout l'ensemble, parce que dans cet épître, Jean, c'est comme s'il nous présentait les choses en faisant, pour moi-même, j'appelais toujours ça, quand j'essayais de comprendre au début, quand j'étais jeune converti, que j'avais du mal à suivre dans cet épître, c'est un peu un raisonnement qui a une forme de spirale. On fait un tour, mais on ne revient pas exactement au même endroit. Dans une spirale, on est décalé. Une fois qu'on a fait un tour, on est un peu, soit si c'est une spirale dessinée, un escargot, quoi, on fait un tour, on revient à côté de l'endroit où on était avant. Et puis on fait un prochain tour et on revient de nouveau, presque au même endroit, mais pas tout à fait décalé. Et puis c'est un peu comme ça, les sujets viennent, et puis on fait un tour à travers des sujets qui s'enchaînent pour revenir à ce sujet-là, mais un peu plus loin, un autre aspect. Et comme ça, petit à petit, on arrive à avoir une vision pas complète, parce que la parole n'est pas, elle est complète dans un sens, mais elle ne nous donne pas l'absolu de ce qu'est l'amour divin ou l'absolu de ce qu'est Dieu. Mais elle nous donne comme ça des éléments qui s'ajoutent les uns aux autres et qui nous permettent d'entrer dans ces choses qui sont insondables. Alors, verset 7, c'est le côté pratique. Aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu. Le verset aurait pu être dit dans l'autre sens. L'amour est de Dieu, aimons-nous l'un l'autre. Mais c'est pas la même chose. C'est d'abord une interpellation pour nous. Aimons-nous l'un l'autre, pourquoi? Mais parce que l'amour est de Dieu. S'aimer l'un l'autre, c'est manifester ce caractère divin. Quiconque aime est né de Dieu. Si nous manifestons cet amour, nous révélons, nous extériorisons que nous sommes nés de Dieu et que nous connaissons Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et tout cela pourquoi? Parce que l'amour est de Dieu. En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Le point de départ, il y a un point de départ. Le point de départ de l'amour, c'est Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Le point de départ, c'est qu'il a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. On revient un peu à Jean 3,16. Et il faut revenir à ce point de départ. Et les choses s'enchaînent à partir de ce point de départ. De la même manière, au verset 19, nous l'aimons parce que lui nous a aimés, le premier. C'est le point de départ. Nous pouvons aimer parce qu'il nous a aimés. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte. Combien c'est quelque chose d'encourageant. La source est en Dieu. Dieu est amour, ça nous est répété deux fois. On l'avait déjà au chapitre 3, ça nous est... Non, au chapitre 4, verset 8, à la fin, « Car Dieu est amour », ça nous est redit au verset 16, « Dieu est amour », la source est en Dieu, la nature même de l'amour vient de Dieu, et cet amour n'est pas une demi-mesure. C'est quelque chose de complet, d'entier, qui permet d'affirmer « il n'y a pas de crainte dans l'amour ». La crainte peut être à beaucoup de niveaux. Il peut y avoir simplement cette crainte de s'approcher de Dieu qui est lumière. Il peut y avoir toutes les craintes. Je pense aux disciples dans la barque, regardant aux vagues, au vent, à la tempête. Il y a toutes les craintes que nous pouvons nous fabriquer quand nous transformons un verbe au présent en un verbe au conditionnel. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, c'est pas nous sommes peut-être enfants de Dieu, ou nous serons peut-être enfants de Dieu. Voilà des occasions, des sujets, des raisons de crainte, il y en a, chacun en trouve dans sa vie, dans son cœur, dans ce qu'il est lui-même. Et qu'est-ce qu'il nous est dit là? Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait chasse la crainte. Car la crainte porte avec elle du tourment, celui qui craint n'est pas consommé dans l'amour. On a ce consommé, qui est un mot un peu difficile à traduire, qu'on retrouve à beaucoup d'occasions, qui parle de quelque chose de complet, de complètement, absolument complet. Si nous saisissons pleinement l'amour de Dieu, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Il n'y a plus de sujet de crainte, l'amour de Dieu est là pour nous soutenir, nous encourager, nous porter. L'amour de Dieu qui a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est toujours ça la référence absolue. Qu'est-ce que Dieu a fait pour manifester cet amour? Ben, il a donné son Fils unique. Certainement beaucoup de choses à dire là-dessus. On va rester là. Que le Seigneur nous aide à entrer et à faire nôtre, à goûter à ce qu'il est en amour dans sa pleine lumière.
69, ça se trouve 2 et 3.
69, ça se trouve 2 et 3.
Nous avons chanté « Elle est en toi la source du bonheur, en toi qui seul est amour et lumière. » Je voudrais simplement lire quelques extraits du cantique 258. « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au-dedans, tel que je suis, ton grand amour a tout expié sans retour. Fais-nous marcher en paix devant ta face. »
Bienheureux celui qui connaît l'amour de Dieu. Nous sommes bienheureux parce que nous avons connu, découvert, émerveillé cet amour divin lors de notre conversion. Et depuis ce jour, nous le ressentons dans nos circonstances, dans les petits détails comme dans les grandes choses de notre vie ici-bas. Toujours l'amour divin nous soutient, nous encourage et nous te prions, notre Dieu, que tu nous aides à suivre ces exhortations de ta parole, à avoir cet amour divin comme étalon de notre vie. Le Seigneur nous a demandé de nous aimer comme lui nous a aimés. Comme notre frère nous l'a rappelé, certaines de ses exhortations nous sondent profondément parce que c'est un amour pratique qui est devant nous. Un amour de chaque jour, un amour qui peut passer par-dessus tout ce que nous sommes dans notre condition humaine. Notre Dieu, nous te demandons humblement de nous aider à aimer comme nous avons été aimés. Nous te remettons, notre Dieu, cette semaine qui est devant nous, te priant que là aussi nous puissions, à travers les occasions que toi tu donnes, manifester cet amour, que ce soit envers nos frères et nos sœurs, mais aussi que cet amour puisse témoigner. Te demandons ces grâces, notre Dieu, en nous appuyant sur toi, en te bénissant au nom du Seigneur Jésus. Amen.